Il y a 3 semaines est sorti un petit livre bleu passé un peu inaperçu, sans doute parce qu'il se moque d'avoir été écrit ce livre. Il est pourtant signé Bob Dylan, en grand, en lettres d'argent. C'est la retranscription de ce discours qu'il a envoyé à l'Académie suédoise pour son prix Nobel de littérature l'année dernière. Et c'est un texte d'une simplicité aussi confondante que mordante qui pose la question du lien entre la chanson et les livres. Il y parle d'influence Bob Dylan, de musique, de textes fondateurs, de vocabulaire aussi, de langue vernaculaire. Et après quelques remarques sensibles sur 3 grands classiques, il conclut en disant que les chansons, avant toute chose, sont vivantes au pays des vivants. Sans doute sont-elles un art un peu plus modeste que les livres, sans doute n'appellent-elles pas la gloire et les honneurs, mais elles ont cette beauté-là d'appartenir aux vivants. Autant dire que c'est un pied de nez ultime à la littérature. C'est par ça qu'il termine son discours du Nobel, Bob Dylan, en disant que ses chansons ne sont pas destinées à être lues en fait, mais à être écoutées. À la toute dernière phrase quand même, il s'en remet à Homère, en disant « Chante en moi, muse, et à travers moi, raconte l'histoire. »
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est une artiste chez qui poésie et musique font corps. Icône, qu'elle le veuille ou non, du rock'n'roll, de la bohème et de la liberté. Elle publiait il y a 7 ans « Just Kids », récit quasi mythologique de son histoire d'amour et d'amitié avec le photographe Robert Mapplethorpe dans le New York de la fin des années 60. « Just Kids » vient de reparaître dans une nouvelle édition illustrée de nombreuses photographies et de dessins. Bonjour, Patti Smith.
Good morning.
Merci beaucoup d'être là. Pourquoi un poète se met-il à chanter?
I think in writing poetry, I was
quand j'écrivais de la poésie, je crois que je me satisfaisais de la solitude de l'écriture et de la poésie. Mais quand j'ai commencé à faire des lectures publiques, des performances, j'avais trop d'énergie à l'intérieur, trop d'agitation intérieure. Et puis aussi, je voulais vraiment engager le public avec moi, être en contact avec eux plutôt que de leur lire simplement. Donc j'ai commencé à chanter des petites chansons a cappella entre mes poèmes. Bien sûr, je ne songeais pas du tout à en faire un album ou à creuser cette veine. Mais je voulais simplement énergiser la lecture des poèmes.
Vous le racontez dans Just Kids, vous allez commencer par lire vos poèmes sur scène avant de devenir musicienne. Ce glissement s'explique aussi par le goût de la performance. Quand est-ce que vous avez compris que vous étiez une performeuse?
Quand
j'ai toujours été à l'aise pour parler en public, que ce soit à l'école ou parler devant des gens, raconter des histoires. Je crois que c'était l'aboutissement de quelque chose qui m'était naturel. Je ne suis professionnelle en rien, je n'ai jamais eu de formation musicale. Je suis autodidacte, mais simplement je n'ai pas peur de me tenir debout et de parler ou de chanter devant 2 ou 200 000 personnes. Je crois que c'est dans ma nature, simplement.
Et puis il paraît que quand vous avez vu Jim Morrison sur scène pour la première fois, vous vous êtes dit « moi je peux faire la même chose ».
Oui, c'est vrai. Je l'avoue. Et j'ai eu un peu honte d'avoir pensé ça, parce qu'après tout, j'avais 20 ans seulement, je travaillais dans une librairie, je n'étais jamais montée sur scène, il n'y avait aucune raison pour que je pense ça. Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose pendant que je le regardais, je me suis dit, je comprends ce qu'il fait, moi je peux le faire aussi. Bien sûr, j'ai osé dire ça à personne.
Comment vous vous sentez quand vous êtes sur scène?
Je me sens heureuse, généralement. J'aime les gens. Même quand j'ai l'air en colère, furax, j'engueule quelqu'un, ou je crache sur la scène, ou j'arrache mes cordes de guitare. Non, je suis heureuse d'être en train de communiquer avec des gens. Parce que le plus clair de mes activités, c'est l'écriture, le dessin, la photo, ce sont des activités très solitaires. Et c'est sympa d'être en contact physique avec les gens.
Et puis, il y a l'idée de messe aussi, lorsqu'on vous voit sur scène, Patti Smith, de rituels sacrés ou magiques. Je me pose la question, qu'est-ce que la poésie et la musique ont à voir avec le sacré pour vous?
I think within performance, it's the channeling aspect.
À travers la performance, je crois que c'est toute cette canalisation des forces, des sentiments. On canalise tout ce qui est ancien, passé. On canalise l'énergie qu'on peut appeler Dieu, les esprits, les émotions des gens. On canalise des tas de choses d'ordre émotionnel ou spirituel. On canalise aussi toute l'angoisse, toute la tension du monde. Et toutes ces choses se mêlent et on les traduit en son ou en une langue. Voilà pourquoi j'adore improviser sur scène avec les sons ou la poésie, parce qu'il se passe tellement de choses, ça vibre autour de nous, on sent tout ça et on peut l'aspirer, le recracher.
Parmi vos nombreuses performances, Patti Smith, il y en a une qui m'a particulièrement émue, c'était l'année dernière à Stockholm. Vous étiez venu récupérer le prix Nobel de Bob Dylan et vous aviez chanté « A hard rain's a gonna fall ». Vous avez eu un trou de mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'émotion.
Le soir de la remise du prix Nobel, je m'étais préparée à fond. J'avais choisi la chanson moi-même. Et je voulais bien faire pour rendre honneur à Bob Dylan. Mais je ne sais pas, ça m'arrive très rarement. Mais j'étais submergée d'adrénaline, j'avais un trac monstre, submergée d'émotions. C'était une expérience très puissante de représenter Bob Dylan, qui recevait le prix Nobel de littérature. Je pensais à Camus, à Hermanès et à tous les grands artistes à qui ce prix avait été décerné. Je voulais bien faire. Et c'est pas que j'ai oublié les paroles de la chanson. Non, rien. C'était pire que ça. J'étais complètement tétanisée. Je pouvais à peine parler. Et je n'arrive pas à l'expliquer. C'était d'ordre chimique. Et puis c'était absolument horrible parce qu'il y avait le roi, la reine qui me regardaient. Tous les lauréats du prix Nobel, tout le public. Et puis il y avait cet énorme monolithe de caméra qui enregistrait tout pour le balancer en direct sur les télés du monde entier. Moi, j'avais l'impression d'être une gamine, un enfant qui voulait s'enfuir. Mais bien sûr, j'ai dû me ressaisir. Et j'ai demandé à tout le monde de me pardonner, de m'excuser un instant. J'avais un trac monstre.
Quand on pense à vous et à Dylan, il y a cette photo saisie par Robert Mapplethorpe. Vous vous tenez de trois quarts. Il y a un portrait de Dylan en arrière-plan. Vous portez une combinaison noire à la Anna Magnani. Et vous tenez la pochette du vinyle de mon disque favori qui est Blonde on Blonde. Ce disque que vous tenez, il est comme un objet sacré. Et je me pose la question, combien de dieux est-ce que vous avez dans votre panthéon, Patti Smith?
I have a few goddesses too.
Ah, mais j'ai quelques déesses aussi.
Right there, there's Bob Dylan, but there's also.
Et là, déjà, il y a Bob Dylan, mais il y a aussi Lotte Lenya. Et puis j'ai adoré Jeanne Moreau, Jeanne d'Arc, Arthur Rimbaud et Godard. Et je peux continuer la liste.
C'est Dieu, Patti Smith. Et ces déesses, en quoi est-ce qu'ils vous ont aidé à vivre? En quoi est-ce qu'ils vous aident encore à vivre aujourd'hui?
Je ne les vois pas vraiment comme des dieux et des déesses, mais comme des collègues, des camarades de travail. Moi, je n'ai pas besoin de dieux et de déesses. Un dieu, ça me suffit. Mais ceux qui travaillent, ça, c'est sacré. Comme quand on pensait que les saints étaient sacrés. Moi, mes collègues, ils sont sacrés à mes yeux. Il n'y a rien qui ne m'émeut davantage, hormis l'amour qu'on a pour ses enfants, pour sa famille. Mais rien ne m'émeut plus que le travail d'autres artistes. Et c'est un paysage qui change sans cesse. Il y a toujours de nouveaux artistes. Ça peut être un écrivain japonais du XXe siècle, ou Picasso, ou Patrick Modiano. Et puis il y a les nouveaux artistes qui émergent, et ceux qu'on n'oubliera jamais, que ce soit Jimi Hendrix, John Coltrane ou mon mari. Je ne les oublierai jamais, ils sont tous là.
Patti Smith, invitée de Boomerang ce matin pour cette nouvelle parution de Just Kids. Ce livre, devenu culte, vous racontez l'épopée artistique et bohème de deux jeunes gens dans le New York de la fin des années 60 et des années 70. Et pour moi, ce livre, c'est avant tout un livre sur l'amitié, celle qui vous a lié à Robert Mapplethorpe jusqu'à sa mort il y a bientôt 29 ans. Et je me suis demandé qu'est-ce que c'est l'amitié pour vous.
Trust.
C'est la confiance avant tout. Je crois que l'amitié doit reposer sur la confiance. Et dans le cas de Robert et moi, Ce n'était pas simplement qu'on savait qu'on était sincères et fidèles l'un à l'autre, mais c'est surtout qu'on avait confiance dans la foi qu'on avait l'un dans l'autre. Et notre longue relation était essentiellement fondée sur le travail. On avait confiance parce qu'on savait que l'autre comprenait intimement ce qu'on faisait, le travail de l'autre. Et la véritable amitié, vous savez, vos vrais amis sont comme une banque, on dépose tant de choses précieuses en eux et inversement.
Quand vous regardez des photos de vous deux, de Robert Mapplethorpe et de vous, Patti Smith, prise au début des années 70, qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce que vous voyez? Si on prend par exemple la photo de couverture de ce livre signé Norman Seeff.
Well, when I look at the pictures, the Norman Seeff,
quand je regarde les photos,
they're very special,
celles de Norman Seeff, oui, elles sont très particulières. Elles sont sorties à une époque où, avec Robert, on se débattait, on était dans un moment de transition, on avait été amants, on devenait amis. C'était très difficile pour tous les deux. Est-ce qu'il y a vraiment beau dans ces photos? Je crois qu'elles ont été prises dans la cuisine d'amis à nous. Notre chambre au Chelsea Hotel était toute petite. Mais ces photos, elles débordent de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse dans ces photos.
Just Kids, vous l'avez écrit parce que Robert Mapplethorpe vous avait demandé de le faire. Il vous avait fait promettre de raconter votre histoire. Pourquoi est-ce que ça lui tenait autant à cœur, à votre avis?
Well, Robert, he was only 42 years old.
Robert n'avait que 42 ans quand il est mort, il ne voulait pas mourir. Il s'est battu toutes ses forces pour vivre. Mais il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui comme d'un photographe controversé mort du sida. Voilà, ça, ce sont des faits, ils sont réels. Mais il y a tellement d'autres choses à connaître de lui. Et personne ne le connaissait aussi bien que moi. Parce qu'on n'était que des gamins, on s'est rencontrés, on était si jeunes. Et personne ne connaissait vraiment tous ses combats et son évolution quand il était si jeune, la manière dont il est devenu artiste. Il voulait que je préserve cette mémoire, il voulait qu'on se souvienne de lui.
Le paradoxe, c'est que votre livre s'inscrit et alimente quelque part cette légende, Patti Smith, de ce passé qui est devenu quasi légendaire, celui du New York effervescent du crépuscule des années 60, où vous croisez Warhol, Janis Joplin, Jimi Hendrix, autour du Chelsea Hotel, du Max Kansas City. Quel monde est-ce que c'était pour vous?
Well, even when I was living within it, I was working at a bookstore.
Ouais, même quand je vivais dans ce monde, vous savez, je travaillais dans une librairie et puis le soir avec Robert, on travaillait, on dessinait et on avait tous à peu près le même âge. On se ressemblait tous, on s'habillait pareil, on avait tous la même conscience sociale, on partageait les mêmes valeurs, on était tous contre la guerre au Vietnam, pour les droits civiques. On était fringués n'importe comment. Et finalement, tout ça était assez merveilleux, mais ce n'était que la toile de fond de nos propres histoires. On avait quoi, la vingtaine, 21, 22, 23 ans? Moi, ce qui m'intéressait, c'était nos trajectoires. C'est ça qui m'intéressait davantage, nos propres trajectoires et celles de notre travail.
Elle est toujours là, cette bohème que vous avez vécue. Elle est toujours en vous.
I've always been the same.
Je n'ai pas changé, non. Quand ma fille regarde des vieilles photos, des anciens appartements, ou les fringues que je portais, ou je lis quelque chose, et elle me dit « Maman, t'es toujours la même !»
Pour autant, dans quel monde est-ce que vous avez l'impression de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous rend vigilante, Patti Smith?
Je ne suis pas seulement inquiète, j'ai le cœur brisé, je me sens trahie, en colère. Je n'arrive même plus à regarder les infos à la télé parce que je ne supporte pas d'entendre la voix de notre président ou de regarder son visage. Tout ce qu'il dit me dégoûte, soit c'est faux, ou c'est un mensonge, c'est pompeux, c'est brutal. Il n'a jamais rien dit qui me fasse me dresser en me disant « Ah, d'accord, il y a quand même un peu de bonté dans cet homme ou de bonnes idées. » Jamais. Et puis, il y a la question de l'environnement qui m'inquiète terriblement, le changement climatique et la manière dont cela affecte toutes les espèces, les abeilles, les oiseaux, les récifs de corail. Tout ça m'inquiète.
Il y a
un million de choses qui peuvent nous inquiéter, mais par ailleurs, c'est tellement magnifique d'être en vie. Et puis, il y a des choses à attendre. Peut-être que mon écrivain favori va sortir bientôt son prochain livre. Je vais découvrir l'intérieur d'une magnifique église, une superbe architecture, voir les progrès de mon petit-fils. Tout ça, je vais bientôt avoir 71 ans et j'ai train de présent plus que je ne l'ai jamais fait. Parce que maintenant, mon temps semble compter. La fin s'approche un peu plus, donc je veux profiter du temps qu'il me reste. Profiter d'être en vie, écrire, profiter de mes enfants et travailler, encore travailler.
Mais je vous propose de remonter le temps, Patty, de revenir au temps de l'adolescence, tiens, à ses parfums, à ses émotions, avec cette magnifique reprise que vous faisiez de Kurt Cobain il y a tout juste 10 ans. Smells like teen spirit. Vous êtes sur France Inter avec Patty Smith. Vous écoutez Boomerang. Et nous sommes des ados, que dis-je, just kids. Des enfants.
Up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself assured. I know, a dirty word. Hello, 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 with the
sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle est... Il n'y a pas de mots, en fait. Elle est unique, à la fois hyper présente et absente, à la fois ici et ailleurs, sur son visage, dans son regard, un petit peu de travers. Il y a tous les âges qui passent sans jamais se figer. Elle a quelque part entre 6 et 70 ans, avec ses longs cheveux gris qui lui tombent aux épaules, son t-shirt blanc et son boléro noir, boots de roqueuse, lunettes de rat de bibliothèque, inimitable, intemporel. Patty Smith, invitée de Boomerang ce matin pour l'apparition de Just Kids dans une nouvelle édition augmentée de photographies, de dessins, un livre dans lequel vous racontez, on le disait, l'incroyable amitié qui vous a uni à Robert Mapplethorpe, une amitié placée sous le signe de l'art. Et la question se pose pour vous, qu'est-ce que c'est un artiste ?
Well, I mean, it's just hard to define because if one does it, I think it's
c'est
like
dur à définir, surtout quand on fait de l'art soi-même.
Passion,
mais je crois que c'est tout ce pourquoi on a une passion, pas seulement une passion, mais une vocation. Et on ne peut pas vivre sans se livrer à sa passion. Moi, je ne peux pas vivre sans écrire tous les jours, sans essayer au mieux d'exprimer l'inexprimable. William Burroughs a dit qu'un artiste, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Et je crois que ça définit justement le travail de Robert.
Comment vous avez su, vous, que vous étiez une artiste ? Vous vous souvenez ?
Well, when I was, I remember that from a child, first I discovered
writing books. Je me souviens, quand j'étais petite, j'ai d'abord découvert l'écriture, les livres, je voulais devenir écrivain. Et puis à 12 ans, mon père m'a emmené au musée d'art de Philadelphie et j'ai découvert des vrais Picasso, des originaux. C'était des Picasso de la période cubiste, certains de l'époque de Guernica, les années 30. Et j'ai regardé cette toile et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà, comme quand j'ai vu Jim Morrison sur scène, je me suis dit, je peux le faire. Là, avec Picasso, je ne me suis pas dit, je peux le faire, mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je voulais vraiment devenir une artiste. Mais je n'étais pas sûre de l'être. Et quand j'ai rencontré Robert, on avait 20 ans tous les deux. Et lui, il savait qu'il était un artiste. Il n'avait aucun doute là-dessus. Et c'est lui, c'est Robert. J'avais une vingtaine d'années à peine. Il m'a presque obligée à accepter le fait que je n'étais pas une apprentie, que je n'étais pas en train d'essayer d'être une artiste. On est artiste ou on ne l'est pas.
Ce qui est certain, c'est que votre histoire avec Robert Mapplethorpe, elle a été très romantique, très fructueuse aussi en termes de création. Vous dites d'ailleurs que l'art et la vie, chez vous, ne faisaient qu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Well, for me, I mean, it doesn't for all people, but,
oui, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde.
I could not pull them apart.
Mais moi, je ne peux pas séparer l'art et la vie. Je ne cesse jamais d'être écrivain, même quand je n'écris pas, mon cerveau, mon esprit est toujours en ébullition. Qu'on soit musicien, écrivain, quelle que soit la vocation qu'on s'est choisie, journaliste, on ne cesse de transformer ce que l'on voit à l'aune de qui l'on est et ce que l'on fait. De notre travail. Donc, vous savez, moi, je n'ai pas un costume d'artiste que j'enfile à heure fixe. Non, ça fait partie de mon ADN.
J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous fermiez les yeux, Patti Smith, pour qu'on entende tous les deux la voix de cet homme qui a tant compté pour vous. C'était en 1988 sur la BBC.
Ok.
Somehow. D'une certaine façon, j'ai réussi à capter la magie du moment et à le façonner. C'est de là que vient mon urgence à faire de la photo. Tu te retrouves quelque part et tu peux le faire avec une fleur, une bite ou un portrait. C'est assez mystérieux en fait. Tu ne sais pas pourquoi ça se produit, mais ça se produit. Et tu te retrouves aspiré par un espace magique.
Robert Mapplethorpe, en 1988, vous êtes très ému. Patti Smith.
Mais c'est exactement le mot qu'utilisait Robert. Il n'utilisait pas le mot spiritualité, même si son travail s'inspirait souvent d'une imagerie religieuse. Mais c'est comme ça qu'il décrivait ça, la magie. S'il regardait une planche contact, par exemple, quand on a fait les photos pour la couverture de l'album Horses, il n'a pris que 12 photos. Il m'a montré la planche contact et il m'a dit, c'est celle-là qui a la magie. Toutes les photos étaient bonnes. Et il y en avait une que je préférais, mais lui m'a dit, non, c'est celle-là qui a la magie. Je me suis inclinée, c'est lui qui a choisi la photo de couverture de Horses. Et on vient de l'entendre, il parle d'aller vers cet espace. Moi, je le voyais, cet espace, comme un immense océan de sagesse, un océan de possibilités dans lequel on puisait. Et Robert, il appelait ça le royaume magique, mais c'est le même royaume.
En parlant de magie, il vous parle encore, aujourd'hui ?
Oh, always.
Ah oui, il me parle sans cesse. Il m'engueule. Quand j'étais en train d'écrire le livre, vous savez, Robert m'a demandé d'écrire ce livre le jour de sa mort. Et il m'a fallu presque... Bon, il est mort en 89 et le livre est sorti en 2010. Et alors il est là, sur mon épaule. Patti, mais qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi ça te prend si longtemps ? Ça fait des années que tu travailles sur ce bouquin. Je l'entends sans cesse et puis il me conseille. Quelquefois, j'essaye de prendre une photo, puis j'arrive pas à trouver le cadre. Et tout à coup, c'est comme si j'avais accès à son œil, à sa pensée. Et je vois exactement comment il prendrait la photo et comment moi je vais la prendre. Il est toujours avec moi. Quand je vacille ou si je perds un peu confiance en moi, il suffit que je respire un bon coup et Robert est là.
Comment est-ce qu'il vous regardait, Robert Mapplethorpe ? Je vous pose la question parce que jamais personne ne vous a prise en photo comme lui. Quand vous regardez par exemple cette photo de 1988 où vous tenez votre fille Jess dans les bras comme une madone à l'enfant, qu'est-ce qu'il a capturé de vous à cet instant ?
Cette photo, c'est la dernière que Robert ait prise de moi. Il est mort quelques mois plus tard. Il était très malade quand il a fait cette photo. Mon mari et moi, on avait amené nos enfants dans son loft. Robert était tout bien habillé, il était magnifique, un peu émacié. Et il devait se retirer de temps en temps pour se recomposer, parce que vraiment, il était très malade. Et on était là pour qu'il prenne une photo de notre famille. Et puis après, j'étais là avec ma fille. Elle était si mignonne, ma petite. Et il me dit, Patty, mais elle est parfaite. J'ai regardé ma fille et il a fait la photo à ce moment-là. Et elle riait en le regardant, elle l'aimait bien. Et c'est la dernière photo qu'il ait prise de moi. Pardon, je regarde.
Elle dit quelque chose de lui, de l'artiste, de vous deux peut-être aussi, comme des magiciens, cette photo.
I think it's just love. You know, it was.
Je crois que c'est. C'est de l'amour qu'on voit là.
I'm a bit messy in the picture. My little girl is.
Moi, je suis un peu échevelée sur cette photo. Il y a ma petite fille. C'est une photo prise un peu à l'arrache. Même l'exposition n'est pas vraiment parfaite. C'est la toute dernière. Et Robert était très économe dans sa photographie. Il ne prenait pas 20 prises, non, il en prenait quelques-unes. Et puis, il n'aimait pas faire des instantanés. Je crois que c'est la photo la plus intime et la plus personnelle qu'il ait jamais prise de moi. Je regarde ma petite avec amour. On a fini la séance de travail, là on fait une pause. Et elle sourit à Robert. Il a capturé son sourire. Voilà, c'est un petit instantané d'amour.
J'aimerais qu'on termine cette émission avec de l'amour. Alors, si vous le voulez bien, Patty Smith, un extrait peut-être de Just Kids qu'on va vous entendre dire. C'est une lettre que vous lui écriviez à Robert Mapplethorpe et qui résonne encore ce matin.
Right before Robert died, I
oui, juste avant la mort de Robert, je suis allée le voir. On était seuls, tous les deux. Il y avait une infirmière dans la pièce à côté. Il est mort peu après. Et je lui ai écrit cette lettre, mais elle est arrivée trop tard pour qu'il la lise. Alors je vais vous la lire.
Dear Robert, often as I lie awake,
souvent quand j'ai des insomnies, je me demande si toi aussi tu es éveillé dans le noir. Est-ce que tu souffres? Est-ce que tu te sens seul? Tu m'as tiré de la période la plus obscure de ma jeune vie. Tu m'as fait partager le mystère sacré de ce que cela signifie d'être un artiste. J'ai appris à voir à travers toi, et je ne compose jamais un vers et ne dessine jamais une courbe qui ne dérive du temps précieux que nous avons passé ensemble. Ton œuvre, venue d'une source fluide, trouve ses origines dans le chant nu de ta jeunesse. Tu disais alors aller main dans la main avec Dieu. Rappelle-toi, à travers toutes les épreuves, que tu as toujours tenu cette main. Serre-la bien, Robert, et ne la lâche pas. L'autre après-midi, quand tu t'es endormi sur mon épaule, je me suis assoupie aussi. Mais avant de sombrer, l'idée m'est venue, en regardant tous tes objets, tes œuvres, et en passant en revue mentalement des années de travail, que de toutes tes œuvres, tu es encore la plus belle de toutes les œuvres.
Les mots comme des prières, Just Kids, Patty Smith dans Boomerang. Évidemment, merci infiniment, Patty, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Et pour tous vos tours de magie aussi, merci à votre interprète ce matin, la très rock'n'roll, FDR. Je rappelle que Just Kids vient de reparaître dans une très belle édition chez Gallimard. Merci d'être venue jusqu'à nous.
Merci.
Tout de suite, les médias. Sonia De Villa.
Thank you.
Juste après ça.
I'm in love again with my old pain. My old pain, save me from the same perpetual game of my own name. Every town the weeping willow dances in the breeze. Please remind everybody that I smile with ease. not too long ago. So honey, don't let go. All what you know of me, I am dressed to kill. My old skin, save me from the same primordial sin that's deep within. Every time them hungry waves come dancing in the sand, please remind this broken shell it used to be a man. Not too long ago. So honey, don't let go of what you know of me. Take heed of the ocean and the sand of the storm, and whisper
My Old Pain, Asaph Avidan sur France Inter.